Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafont. Le retour de Clap après deux semaines de, on va dire, trêve électorale. Je ne sais pas si on peut appeler ça une trêve, mais enfin voilà, c'est comme ça. Cette semaine, elle affiche sur les écrans Manceau 9 nouveautés. Elvis, Les goûts et les couleurs, I'm Your Man, L'homme parfait, Black Phone, El Buen Patron, Buzz l'éclair, Jungle rouge et Ventura. Évidemment, pour la programmation musicale, ça n'a pas été très compliqué cette semaine. Tout a été pris dans la BO du film Elvis, une BO qui est extrêmement riche, il faut bien le reconnaître. Et il n'y a pas que du Elvis. La preuve, c'est qu'on commence avec un titre qui doit être le titre qu'on entend au tout début du film sur le générique de départ. Ça s'appelle Vegas, et le groupe, c'est Doja Cat sur Radio Alpa, 107.3 FM.
C'est une chanteuse, hein?
Oui.
Doja Cat.
C'est une chanteuse.
Oui.
Parfait.
You from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my Nina in discreet, keep the clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth, let my demons off they leashes if you even think to speak, I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream, we could keep that sleeping, you gon' live with all your G's, count them sheep, time by Z,
Doja Cat, Vegas, un titre qu'on entend au tout début du film, Elvis. Et bien justement, c'est le moment d'en parler d'Elvis, le film proposé au Pathé Quinconce, au Méga Cégère, au Colisée, et partout, même au Méga, il y a de la séance en VO. Alors, il n'y en a pas tous les jours au Méga, mais il y en a, et donc c'est tout à fait louable. Sinon, il y en a au moins une par jour au Pathé et au Colisée. Le film Elvis est un film de Baz Luhrmann, réalisateur, scénariste, producteur australien en 1962. En 92, on l'avait découvert avec Ballroom Dancing. En 96, je l'avais adoré avec Roméo et Juliette, ou plutôt Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. 2001, c'est peut-être de mes 10 premiers, des 10 films préférés de toute ma vie, Moulin Rouge, et oui, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. 2008, moins apprécié, Australia, avec Nicole Kidman et Hugh Jackman. 2013, très bien aussi, Gatsby le Magnifique, avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et la sublimissime Carey Mulligan. Le film Elvis dure 2h39, ne vous inquiétez pas, on ne les sent pas du tout passer. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. À une exception près, c'est Libération qui n'a pas du tout aimé. Les autres ont globalement apprécié le film. Alors on commence par Olivier Lame dans Libération. Elvis s'intéresse à tout, sauf à la musique, à l'origine du phénomène Presley, et passe le plus clair de son temps, 2h39, à nous en détourner pour nous ensevelir sous un magma de lumière et d'effets de manche qui le place sans ambiguïté du côté des exploiteurs qui firent de la carrière d'Elvis son calvaire, puis le précipitèrent au tombeau. Alors, maintenant, on va passer quand même à ceux qui ont apprécié. C'est par exemple Frédéric Foubert dans Première. Pas un biopic de plus, non, le biopic des biopics. Hein, vous voyez, carrément. Caroline Vier, elle est dans 20 minutes et elle dit que le film est flamboyant. Cyprien Cadéo d'Humanité, Elvis est à la fois un grand 8, hommage au génie scénique de Presley, et un récit noir sur la propension des États-Unis à transformer leurs idoles en produits marketing. Olivier Nu dans Le Figaro, mieux que les milliers de sosies et autres clones apparus depuis sa mort il y a près de 45 ans. Butler, c'est Austin Butler, interprète magistralement le rôle, ou plutôt les rôles, tant Elvis a été multiple, de son apparition à l'âge de 19 ans à sa mort à 42 ans. Jean-Luc Verhoeven dans Le Point, un tourbillon visuel, une série de montagnes russes comme à la foire, dans lesquelles s'entremêlent des numéros musicaux spectaculaires, des images d'archives, des extraits de films de Presley, des comics, des scènes de vie intimes ou des effets de l'écran divisé, ce qu'on appelle le split screen. Théo Ribeton, Les Inrecuptibles. Baz Luhrmann signe un film somptuaire et intelligent sur un king presque trop divin pour les formules consacrées du genre biopic. Fabrice Leclerc par image dans ce film évidemment opératique, brillant et chevelé, fourmillant de moments de cinéma incroyables et de détails méconnus, mais à la tonalité finalement très sombre. Le cinéaste de Moulin Rouge ne raconte pas un homme, mais un pays. Trois décennies d'une Amérique pudibonde et raciste confrontée à l'évolution de ses mœurs. Nicolas Chalère dans L'Obs, ayatollah de la finesse et sensible de la rétine, s'abstenir. C'est du Luhrmann dans toute sa splendeur et ses excès. Barnum ballonné au montage frénétique, au mixage ahurissant et au trouvé d'inspiration folle. Personne n'a aussi bien capté l'énergie, la puissance musicale et scénique du King. À condition de se laisser embarquer, l'expérience vaut le détour. Stéphane Dreyfus dans La Croix, malgré un dénouement interminable, le film parvient à raviver le mythe Elvis Presley, bête de scène habitée par l'amour de son public et formidablement servie par l'interprétation tout en nuances d'Austin Butler, un acteur qui donne l'illusion qu'Elvis est bien, bel et bien, revenu dans le bâtiment. Oui, ça fait référence à une formule employé dans le film Rolling Stone, le magazine Rolling Stone, Sophie Rosemont, tout en split screen, il ne faut pas exagérer, c'est pas tout le film quand même, hein, effet de typographie et valse de caméra, tel un clip surpuissant, la cinématographie habituelle de Luhrmann secoue la première partie du film, puis le rythme connaît une baisse de tension. Alors moi, je suis de ceux qui ont adoré le film. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup le cinéma de Baz Luhrmann, qualifié souvent par ses détracteurs de baroque et d'excessif. Eh bien, ce sont justement ces qualificatifs qui convenaient le mieux pour réaliser un biopic sur Elvis Presley. Qualificatif qui ressemble le plus à ce qu'a été sa vie, ou ce qu'ont été sa vie et sa carrière. Et donc, je n'hésite pas à dire que Luhrmann a réalisé un grand film à voir impérativement en salle, sur grand écran, tant il est spectaculaire. Alors, le parti pris de départ du réalisateur, c'est d'évoquer la carrière du chanteur à travers le regard, en voix off, si on peut dire, pour un regard, le regard de son mythique et très controversé, à raison d'ailleurs, impresario, le colonel Parker, dont on apprend qu'il ne s'appelait pas Parker, ni Tom d'ailleurs, et qui n'était pas colonel, mais que c'était un fieffé manipulateur et escroc de haut vol. Donc un Tom Parker, un colonel Parker, à qui, malgré tout, Elvis doit tout, le meilleur comme le pire de sa carrière. Le film, d'ailleurs, c'est un formidable film sur l'emprise d'un homme sur un autre, l'emprise que le colonel Parker a pu avoir sur Elvis Presley. Alors ça donne un film hyper dynamique, spectaculaire, multipliant les morceaux de bravoure en parcourant la vie du King, de sa découverte jusqu'à sa mort, à travers les hauts et les bas de sa carrière, hauts et bas très nombreux d'ailleurs, ses multiples résurrections artistiques, ses relations avec sa famille, notamment sa mère, mais aussi son père, qui devient aussi une sorte de deuxième manager, son mariage avec Priscilla et bien sûr ses relations avec le fameux colonel Parker. Tout ceci permet de voir à quel point le jeune Presley fut un coup de tonnerre à l'époque, les années 50, en jeune chanteur transgressif, comme on dirait aujourd'hui, attaqué pour atteinte aux bonnes mœurs dans une Amérique très puritaine à l'époque. Combien il a accompagné l'histoire des États-Unis des années 50 ou 70, comment il a su se réinventer puis sombrer dans une sorte de déchéance mêlée à l'épuisement. Lurman montre tout cela avec son style, un style démesuré. Alors on peut ne pas apprécier cette débauche d'image, ce montage virtuose, ces effets visuels. Ça n'est pas mon cas. Moi, j'ai adhéré de bout en bout à tous ces excès, à cette alternance de show et de scènes intimes. À toute cette énergie, j'ai adhéré. Et je garde pour la fin, peut-être pas le meilleur, mais la prestation de Austin Butler, qui est absolument impressionnant dans sa composition. Pour moi, il est oscarisable, comme on dit. Il fait un Elvis, il s'est imprégné de façon bluffante de sa gestuelle. Il y a des scènes où c'est incroyable, franchement. Bref,
La voix aussi.
Oui, la voix aussi. Bref, pour moi, un grand film, et c'est certainement un des meilleurs de l'année.
Carrément.
Voilà.
Oui, il faut dire que Austin Butler chante dans les années 50. C'est lui qui chante. Ensuite, il est doublé dans les années 70, vers la fin de la carrière d'Elvis. Il est doublé par Elvis lui-même. Voilà. Alors, annoncé comme le biopic sur Elvis Presley, je me suis, moi, demandé à l'issue de ce film marathon de 2h40 si finalement ce n'était pas aussi un biopic sur le colonel Parker, le manager d'Elvis, interprété magistralement par Tom Hanks, méconnaissable d'ailleurs physiquement. Il faut le dire, on le reconnaît pas du tout. Magistrale aussi la performance du jeune acteur de 31 ans, Austin Butler. Alors je me suis amusé à rappeler les acteurs chanteurs qui ont chanté sur des chanteurs célèbres. Par exemple, en 91, dans le rôle de Jim Morrison, le chanteur des Doors, Val Kilmer.
Oui.
Assez loin déjà, 91. Ah oui. Citons aussi Joaquin Phoenix dans le rôle de Johnny Cash.
Oui,
en 2005.
Bien, très bon film.
Encore Chadwick Boseman dans le rôle de James Brown en 2014. Sacha Baron Cohen dans le rôle de Freddie Mercury, chanteur de Queen, en 2018. Et enfin, Taron Egerton dans le rôle d'Elton John en 2019. C'est récent.
Ah oui, effectivement.
Voilà, je me suis amusé à retrouver tout ça.
Oh, il y en a d'autres, hein.
C'est les principaux, les chanteurs les plus connus, du moins. Hein. Alors, Priscilla Presley, épouse d'Elvis, est aujourd'hui âgée de 77 ans, quand même, elle est toujours là. Elle a dit avoir aimé ce biopic. C'est une référence, donc, car elle est un petit peu exigeante. Et vous, amateurs de rock'n'roll, vous aimerez certainement aussi ce film, qu'a aimé aussi son unique fille, Lisa Marie. D'ailleurs, elle est âgée aujourd'hui de 54 ans. Mmh. Et puis, pour rappel, eh bien, Elvis est décédé le 16 août 1977. D'ailleurs, c'est écrit à la fin du film.
Oui.
Et il avait 42 ans, tu l'as dit tout à l'heure.
Oui, effectivement. Bon, alors, donc, un film qu'on recommande absolument.
Absolument. Amateur de rock,
bien sûr. Moi, je l'ai vu en VO, tu l'as vu en VF ou...
En VF, oui.
Ouais. Et c'est bien la VF?
Oui, parce que les chansons sont quand même en anglais, bien sûr.
Mais bon, la VO est exceptionnelle, là aussi. Bien, allez, les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, c'est un film de Michel Leclerc, qu'on peut voir uniquement au cinéaste, avec en général deux séances par jour. Michel Leclerc est un réalisateur scénariste né en 65. Il a commencé par des courts et des moyens métrages. Puis en 2005, J'invente rien, avec Cadmera d'Elsa Zilberstein. 2010, le film qui l'a rendu célèbre, c'était Le Nom des gens, avec Jacques Gamblin, Sarah Forestier et une apparition de Lionel Jospin dans son propre rôle. 2011, Télégaucho, avec Félix Moati et Sarah Forestier. 2015, La vie très privée de Monsieur Sim, avec Jean-Pierre Bacri et Mathieu Amalric. 2019, La lutte des classes, avec Laïla Bekti et Édouard Baird. 2021, celui-là, je ne l'ai pas vu, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, c'est un documentaire. Et puis, il a son actif des épisodes de la fameuse série télé Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Donc, le film dure 1h50, et je répète, il est proposé uniquement au cinéaste avec deux séances par jour. Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Darren Jan, icône rock des années 70, qui disparaît soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l'ayant droit de Darren Jan, Anthony, placé sur le marché d'une petite ville qui n'a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s'affrontent, à moins que l'amour, bien sûr. Alors, Xavier Lerper dans l'Obs, une réussite qui doit beaucoup à ses comédiens, Félix Moati et Rebecca Marder, étincelle de charme, et Judith Chemla dans le rôle d'une vedette pop entre Brigitte Fontaine et Catherine Ringer, touche au sublime. Le Parisien, pleine de charme et de poésie, mais aussi moins surprenante que ses précédents films, dont Des gens ou la lutte des classes. Cette jolie histoire d'amour musical aborde les thèmes chers à Michel Leclerc, qui l'interroge ici brillamment, les rapports de classe et les codes culturels. Olivier de Brune, Les Échos, Michel Leclerc aime observer la société française et ses fractures, il le prouve une nouvelle fois dans Les goûts et les couleurs, une fiction qui, derrière sa fantaisie musicale et ses faux airs de comédie romantique, examine la violence de classe et les préjugés qui sévissent des deux côtés du périph, un film inventif. Violence de classe, bon, passons. Le Figaro, Étienne Sorin, on pense au goût des autres, la formidable comédie d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri sur les préjugés de classe et le snobisme culturel. Les goûts et les couleurs est moins fin, cela n'empêche pas quelques très bonnes scènes. Barbara Théâtre, Le Journal du Dimanche, on pense au goût des autres, là aussi. Non, pardon, Barbara Théâtre, elle pense pas au goût des autres. Dans Le Journal du Dimanche, elle dit qu'avec son charme lumineux et une rôlerie tout en finesse, Rebecca Marder fait pétiller face au pétulant Félix Moati cette comédie sociétale et romantique dans l'air du temps qui épingle gentiment le monde de la musique. Marie Sauvion dans Télérama, entre le bobo et le beau bof, il y a un fossé social et culturel dont les goûts et les couleurs fait son miel sans surplomb. C'est franchement charmant, même si léger, quand on garde en mémoire la profondeur cruelle et mélancolique du goût des autres d'Agnès Jaoui. Oui, vous voyez, la comparaison revient souvent. Gilles Cardreux, Ouest France, la rencontre entre la star vieillissante la rencontre avec la star vieillissante est merveilleuse, puis ça devient une comédie romantique un peu convenue, j'en conviens. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, fort d'un beau trio, Michel Leclerc interroge cette fois la création artistique, les goûts de chacun et l'intégrité des artistes, valeur qui n'est pas synonyme de succès. Seul bémol, certaines ficelles sont bien épaisses. Olivia Cooper Adjian dans Cahiers du cinéma, au prétexte de la fantaisie, tout peut arriver dans les goûts et les couleurs. Des ruptures de ton qui tombent à plat, des revirements psychologiques aussi brusques qu'invraisemblables. Soumises au bon vouloir du cinéaste, les figures sociologiques qu'il prétendait dessiner cherchent vainement leur cohérence et le roman sa consistance. Je ne suis pas complètement contre ce que vient de dire ce dernier critique. Bon, donc j'ai un sentiment un peu mitigé sur les goûts et les couleurs, sur ce qu'on pourrait appeler la fable de la bobo et du bof. De très bonnes choses, hein, comme ces séquences de chansons à travers le temps des années 60 à nos jours, qui sont des pastiches souvent savoureux, mais d'autres moins bonnes parce que peu crédibles, comme cette histoire d'amour entre les deux héros que tout oppose et qui s'attire pourtant bien bien vite, je trouve. Toutefois, le thème principal du film, c'est quand même l'opposition des deux personnes appartenant à des milieux sociaux radicalement différents. Alors en effet, l'histoire est celle de Marcia, une jeune chanteuse qui monte et qui prépare un album avec son idole de toujours, une vieille chanteuse iconique, sorte de Gainsbourg au féminin, matinée de Brigitte Fontaine, hein, un petit peu ça, mais dont la mort soudaine oblige Marcia à contacter son ayant droit, un jeune placier sur les marchés, un vrai bof, macho au goût et à la mentalité bien différente de Marcia. Évidemment, leur rencontre va faire des étincelles, tant les deux ont des visions de la vie opposées, et pourtant, ils vont finir par se rapprocher, et même très rapidement, je trouve. Donc, c'est une satire du monde de la musique, tout autant qu'une comédie romantique. Moi, je trouve le film, je répète, inégal. Les acteurs sont bons, hein, Rebecca Marder est pleine de charme et d'enthousiasme. Félix Moati, peut-être il en fait beaucoup au début du film, oui. Mais il finit par être craquant de fragilité. Puis Judith Chemla compose une savoureuse chanteuse, même si elle est un peu moins convaincante en idole vieillissante. Et puis il y a Arthus dans un petit second rôle qui est excellent, dans un rôle de chanteur DJ, rappeur un petit peu. Tout ça, c'est bien vu. Les chansons sont des pastiches, hommages, très bien réussis, quel que soit le style et l'époque évoquée. Même si les thèmes abordés sont intéressants, les préjugés, les rapports de classe, l'histoire quand même manque sérieusement de crédibilité. Voilà, donc je sais que Pierre a vu le film, et oui. Donc à toi Pierre.
Alors en préambule, je voudrais vous dire quand même que Darren John, c'est un personnage fictif,
oui,
car on y croit beaucoup hein, avec les clips qu'on voit, on a l'impression qu'elle a existé vraiment. Alors j'ai vu ce film comme une critique assez acerbe, parfois même cynique et virulente du monde de la chanson professionnelle et par corrélation du monde du showbiz. En effet, n'entend-on pas à un moment du film l'agent de Darren John déclarer qu'une chanteuse qui vient de mourir, ça fait vendre du disque.
Oui, il est d'ailleurs très bon Philippe Rebaud dans ce rôle.
Ah oui. Et puis il y a une romance aussi, tu l'as dit, assez chaotique, il est vrai, mais une romance tout de même entre l'héritier provisoire,
oui.
Vous comprendrez pourquoi si vous allez voir le film.
Exactement.
De Darren John, donc, et Marcia, fille spirituelle de la première, qui tient à prolonger en chanson la mémoire de la chanteuse subitement disparue. Un film un peu long peut-être, 1h50, oui. Mais si vous aimez la chanson française, vous apprécierez cette histoire qui est par ailleurs remarquablement interprétée.
Exactement, voilà. Donc le film Les goûts et les couleurs, c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. On reste au cinéaste avec I'm Your Man, c'est un film allemand de Maria Schrader. Maria Schrader, réalisatrice, scénariste et même actrice allemande, née en 65. Elle a réalisé en 2007 Une vie amoureuse, qui me paraît inédite en France. Et puis 2015, Stefan Schweig, Adieu l'Europe, un film avec Barbara Sukowa. Le film fait 1h45 et il est présenté, je répète, au cinéaste avec 1 ou 2 séances par jour. Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience pendant 3 semaines. Elle doit vivre avec Tom, un robot à l'apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l'homme idéal. Son existence ne doit servir qu'un seul but, rendre Alma heureuse. Alors c'est le thème à la mode cette semaine parce qu'on va parler d'un homme parfait tout à l'heure et c'est exactement la même chose. Mmh. Clarisse Fabre, Le Monde, Maria Schrader explore la possibilité de l'attachement à une machine, mise au point par des hommes et des femmes. Les robots nous renvoient à notre condition d'être construits, entre guillemets, socialement, culturellement. Et la mélancolie du robot existe. Qui richesse dans West France, I'm Your Man se déroule dans un climat social peu à peu dominé par une mélancolie aussi attachante que déstabilisante. Céline Roudin dans La Croix, Maren Egert a reçu le prix d'interprétation l'année dernière au Festival de Berlin pour un rôle qu'elle investit tout en finesse. Elle lui donne une tonalité mélancolique et pleine d'ambiguïté, jusque dans son dénouement, rendant son personnage de scientifique psychorigide particulièrement attachant. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, cette fable d'anticipation allemande sur la quête de l'amour et du bonheur est plus profonde qu'il n'y paraît, pleine de charme et de poésie, mais aussi de cruauté et de mélancolie. Camille Nevers dans Libération parle d'une comédie rêveuse et introspective qui souffre d'être trop scénarisée. Xavier Lerpeur dans L'Obs, tiré d'une nouvelle mais portée par un scénario bancal qui en étire laborieusement les grandes lignes, le film pêche par une mise en scène clinique. Josué Morel, cahier du cinéma, Alma a beau revendiquer vouloir des frictions dans sa vie, le film en est hélas plutôt dénué. Et enfin, Le Parisien, entre la comédie romantique et le film d'anticipation, I'm Your Man, interroge sur la définition du bonheur, de l'amour et sur les progrès que pourraient apporter les nouvelles technologies. À coup de quelques sentences hautement prévisibles, ces conclusions nous laissent cependant sur notre faim. Nous n'avons pas vu I'm Your Man, mais on ne vous empêche pas d'aller le voir au cinéaste avec 1 ou 2 séances par jour. Bien. Retour à Elvis, et c'est pour un des morceaux de bravoure du film, c'est Suspicious Mind.
Oui.
C'est une des séquences du film absolument fantastique, la chanson par Elvis, et c'est sur Radio Alpa. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Dans le film, c'est une version complètement live, complètement endiablée, oui. Avec la gestuelle de Presley, faite par Austin Butler.
Oui.
Voilà, donc c'est Suspicious Mind, Elvis Presley, de la bande originale du film Elvis. L'homme parfait, c'est un film de Xavier Duringer. Xavier Duringer, c'est un réalisateur, scénariste et producteur né en 1963. Il a à son actif beaucoup de films, hein, déjà une bonne vingtaine. On commence en 1993 par La Nage indienne avec Karine Viard et Antoine Chappé. 97, J'irai au paradis car l'enfer est ici. Très beau titre avec Arnaud Giovanninetti. De 99, Les vilains avec Florence Thomassin. 2002, Les oreilles sur le dos, directement en VOD. 2005, Choc dit avec Bernard Giraudot. Ensuite, des films envoyés en DVD ou inédits. Et puis en 2011, La Conquête, c'est un film sur Nicolas Sarkozy avec Bruno Podalydès dans le rôle du personnage. Et Florence Pernel. Oui, oui.
Ah, oui.
2011, Hiver rouge, ça me dit rien, ça a dû être un téléfilm, je pense. Rouge sang, pareil, certainement un téléfilm avec Sandrine Bonnaire et Bernard Lecoq, parce qu'il a fait beaucoup de téléfilms, Xavier Duringer. Et puis, les derniers en date, c'est en 2019, Paradise Beach, avec Samy Mwadjia et Mélanie Douté. Et puis, le dernier, c'était en 2021, La Fugue, c'est sur Salto, que vous pouvez le voir avec Samir Ghesmi et Valérie Carcenti. Valérie Carcenti, qu'on retrouve dans ce film d'une heure 25, proposé par le Méga CGR, uniquement le Méga CGR. Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes, entretenir la maison, s'occuper des enfants et plus encore. Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari, acteur je m'en foutiste, au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en main, d'autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple. Vous voyez, un thème un peu similaire à celui d'Amy Orman. Pas de revue de presse, les critiques ne sont pas déplacées et je ne peux vraiment pas les en blâmer. Sur le thème de l'usure du couple, un film d'une rare platitude qui repose sur une idée unique, développée sur 1h25. Florence donc en a assez de devoir s'occuper de tout et de tous, son mari et ses enfants à la maison, en plus de son métier déjà prenant dans un cabinet d'avocat. Aussi fait-elle l'acquisition d'un robot humanoïde pour la soulager dans sa charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Celui-ci fait tellement bien son travail qu'il en devient indispensable à tout le monde, au point même de susciter la jalousie de Franck, le mari de Florence, un acteur au chômage et en pleine crise de la cinquantaine. C'est l'exemple parfait du film qui n'aurait jamais dû sortir au cinéma et être programmé sous la forme d'un téléfilm, simplement parce qu'on ne voit pas en quoi une sortie en salle est nécessaire. Le film fera très peu d'entrées, et c'est justifié. Son seul et unique atout, c'est la performance de Pierre-François Martin Laval. Parfait, en robot, au look entre Ken et Playmobil, et sa gestuelle saccadée, mais ça n'est quand même absolument pas suffisant pour justifier l'achat d'une place de cinéma. Au vu d'une comédie terne, où on ne sourit quasiment jamais, je ne parle pas de rire, hein, juste sourire. Vraiment, la critique a eu raison de ne pas se déplacer pour un film aussi médiocre.
Alors, je crois qu'il est au pâté aussi. Hein.
Il est aussi au pâté.
Oui, bon, oui.
Bah, très bien, très bien.
Oui, bon, puisque je devais aller le voir.
Ah, ben bah, alors donc, si
tu m'as dégoûté.
Oui, oui, non, mais c'est pas indispensable, franchement. Voilà donc le film L'homme parfait. Black Phone. Alors, Black Phone, là, ça doit être uniquement au pâté. C'est un film d'épouvante de Scott Derrickson. Scott Derrickson, il n'en est pas son premier film d'épouvante. Il est un réalisateur, scénariste, producteur américain né en 1977. Il avait réalisé en 2003 Hellraiser 5. Inferno, envoyé directement en DVD. 2005 également, L'exorcisme d'Emily Rose, ça je l'ai vu, c'est une sorte d'exorciste, quoi. Enfin bref, avec Laura Tinney et Tom Wilkinson, une sorte d'exorciste, bis, frère, etc. 2008, Le jour où la Terre s'arrêta, avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly et Kathy Bates. 2012, Sinister, avec déjà Ethan Hawke. 2014, Délivre-nous du mal, je crois bien que c'est encore une histoire d'exorcisme, avec Eric Bana et Ramirez. Edouard Ramirez, et 2016, Doctor Strange, avec Benedict Cumberbatch, mais ça, je ne suis pas allé le voir, c'est une marvelerie, comme je dis. Voilà, Black Phone, 1h43, interdit au moins de 12 ans. Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où s'époumouner n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney. La rédaction du Parisien, si vous avez déjà vu au cinéma des histoires d'enlèvement, oubliez-les, celles-ci les enterrent toutes. Eh bien, Sandra Onana, Libération, un bon film qui rallume la flamme de la peur, sans le forcing tapageur auquel nous ont habitués les pétards mouillés du genre. On sursaute peu, mais on a à l'intérieur des os qui se serrent. Or, c'est beaucoup plus difficile d'agir sur l'intérieur des os du public. Cahier du Séma, Vincent Maloza, s'il vire parfois au systématisme et à la pure convention du genre, Black Phone s'impose par une innocence de teen movie, se rappelant, jusque dans son aspect vintage, à un genre un peu oublié, celui de la fable banlieusarde, fantastique, tirant sur l'épouvante des années 80. Mathieu Jaborska dans Écran large, une adaptation un peu laborieuse et finalement relativement anecdotique, qui inquiète tout de même beaucoup lorsqu'elle décrit une Amérique rurale, décrépite et hantée par un Ethan Hawke quasi littéralement monstrueux. Félix Strohn dans Télérama, la noirceur des situations est un défi que le réalisateur doué de Sinister et de Doctor Strange réussit à relever. Mais en entrant dans le face-à-face avec le tueur sadique, son film devient à la fois moins intéressant dans sa forme et dans son propos. Étienne Sorin, Le Figaro, on a déjà vu ça mille fois, malgré un Ethan Hawke en tueur sadique affublé d'un masque de démon. Allô, on raccroche. Les Inrecuptibles de Jérémy Auro, ivre de citations et avare en explications, le nouveau geste horrifique du réalisateur Sinister est un lent effondrement. Bah, pas vu. Pas vu Black Phone, et Black Phone, c'est au méga CGR, uniquement au méga CGR. El Buen Patron, là, c'est au cinéaste et le film a droit, ma foi, à deux séances par jour. C'est un film de Fernando León de Aranoa. Fernando León de Aranoa, ça n'est pas jeune réalisateur. Il est né en 68, il est réalisateur, scénariste, producteur espagnol. Il a réalisé en 97 Familia, en 98 Barrio, en 2001 les Lundis au soleil, ça je me rappelle l'avoir vu avec Javier Bardem et Serge Riaboukine, 2005 Princesa, 2011 Amador et 2016 A Perfect Day, un jour comme un autre avec Benicio del Toro et Tim Robbins, et 2018 Escobar, très bien, avec Javier Bardem, Penélope Cruz. Voilà la filmographie de Fernando León de Aranoa. Le film El Buen Patron dure 2 heures et donc un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine, un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe, une stagiaire irrésistible à la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de Balance, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle à sa manière, paternaliste et autoritaire, en bon patron. Voilà, alors donc la critique est élogieuse, une fois de plus à l'exception de Sandra Onana dans Libération. Libération n'aime pas beaucoup aller au cinéma, j'ai l'impression. Alors que dit Sandra Onana, virant à l'interminable vaudeville dans un dernier tiers arrosé de quiproquos, l'exercice est bien trop bête pour lui prêter la moindre vertu de déconstruction et plus impardonnable serait même du genre à valider les clichés misogynes et stéréotypes de classe qu'il prétend dénoncer. Voilà, donc elle a vu ce film-là, les autres en ont vu un autre et c'est par exemple Jean-Claude Raspienjas dans La Croix. Merci patron, chanter naguère les charlots. Leur esprit parodique aurait pu servir de bande-son à cette désopilante comédie espagnole, satire d'un certain paternalisme incarné par un Javier Bardem au sommet de son art. Éric Nohoff, Le Figaro. Javier Bardem fait des étincelles en PDG paternaliste et maladroit d'une entreprise où tout part à volo. Une comédie sociale particulièrement savoureuse. Olivier de Bruyne dans Les Échos, dans El Buen Patron, un film qui rappelle plus d'une fois la férocité des comédies italiennes de l'âge d'or, ça c'est d'accord. Fernando León de Aranoa dresse le portrait au vitriol d'un patron paternaliste incarné à merveille par Javier Bardem. Une prestation, un film hautement recommandable. Dominique Martinez dans Positif. Sous des allures de petits récits satiriques de la vie d'une entreprise, démarre une comédie humaine délicieuse et cruelle. Elle va se déployer au rythme des jours de la semaine et aller crescendo jusqu'à un embrasement de tragédie, comme à l'opéra. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, coup de cœur pour ce film aussi savoureux que grinçant de Fernando León de Aranoa, qui montre comment un chef d'entreprise paternaliste, pris au piège dans un engrenage implacable, se démène pour le bien-être de sa boîte et de ses employés, mais surtout pour son propre intérêt. Jean-Baptiste Morin, Les Inrecuptibles, le film grouille de vacherie bien sentie, d'histoire croustillante mais aussi très cruelle. On appréciera surtout à sa juste valeur la prestation de Bardem. Il faut rappeler que le film, enfin il faut le préciser, que le film a eu 6 Goya, c'est l'équivalent des Césars, en Espagne cette année. El Buen Patron, eh bien, c'est un film qu'on peut voir au cinéaste avec 2 séances par jour. El Buen Patron, c'est un seul gros regret à propos du film. Il est trop long, 2 heures, parce que la mise en place de la situation et des protagonistes prend un peu trop de temps pour mon goût. Mais mais cela est largement rattrapé par la dernière demi-heure. Et la dernière demi-heure, c'est un petit bijou de cynisme et d'humour noir. Donc l'histoire, c'est celle d'un patron de PME, comme on dit en France, qui, à la veille de voir débarquer dans son usine une commission devant éventuellement lui décerner un prix d'excellence pour son entreprise. Mais le problème, c'est que pour cela, il faudrait que tout aille comme sur des roulettes. Or, eh bien, une succession de petits imprévus risque de tout faire capoter. Alors, les petits imprévus, c'est par exemple cet ancien employé licencié qui campe devant la porte de l'usine et revendique avec de plus en plus de véhémence pour être réintégré. Ou bien, c'est ce responsable de logistique qui multiplie les ratés dans son boulot à cause de problèmes conjugaux. Oui, sa femme le trompe et ça le perturbe dans son travail. Ou encore, cette jeune stagiaire qui ne laisse pas le patron indifférent. Justement, ce patron, sous des dehors affables, paternalistes, à l'écoute de son personnel, eh bien, il cache un redoutable manipulateur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Javier Bardem est excellent dans ce rôle de type sans scrupules, qu'on n'arrive d'ailleurs pas à détester tant il fait preuve de subtilité dans ses manigances pour arriver à ses fins. Il fait preuve de bonhomie, mais c'est une vraie ordure. Et puis, il retombe toujours sur ses pattes grâce à son habileté manœuvrière. Et ça donne un film, donc, qui est une excellente satire sociale, aux nombreux changements de ton et à l'ironie mordante et savoureuse que je recommande là aussi chaudement.
Ouais, je vais y aller.
Eh oui, absolument. Il vaut mieux aller voir El Buen Patron que L'Homme Parfait. Oui, ça, c'est sûr et certain.
Merci du conseil.
Voilà. Bon, allez, on passe à un titre que l'on entend dans Elvis. Cette fois-ci, c'est Austin Butler qui chante le très célèbre tube d'Elvis Presley, That's Alright Mama, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. That's Alright Mama, c'est le premier titre qu'avait enregistré Elvis Presley, c'est ça, hein ?
C'est une reprise, hein, on le voit dans le film d'ailleurs. D'accord. Il cite, c'est un chanteur noir qui avait créé cette chanson, on le voit dans le film.
Austin Butler, c'est sa version, dans le film Elvis. Buzz l'éclair, c'est un film qu'on peut voir au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. C'est un film d'animation de Angus MacLean, et c'est son premier long métrage. Il avait auparavant réalisé des courts métrages et participé à des productions Pixar notamment, ou Disney. Buzz l'éclair, 1h49, la véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui depuis a inspiré le jouet que nous connaissons tous. après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Gilles Kerdon dans West France, une aventure spatiale, pleine d'humour et graphiquement bluffante. Perrine Kenson dans Cinématiseur. Buzz l'éclair réussit ainsi l'exploit d'être un film à la fois original et bourré de références. Une œuvre réflexive qui s'inscrit parfaitement dans la saga Toy Story, donnant à Buzz une raison à son délire originel. Olivier Delcroix, Le Figaro, le souffle de l'aventure est présent dès les premières images, rythmé, drôle, inventif et doté de moult rebondissements, ce space opéra animé va au-delà du simple film d'animation. La rédaction du Parisien, le credo de Studio Pixar n'a jamais varié, rien n'est possible en animation sans une bonne histoire. C'est totalement réussi, le scénario malin, très inventif, hilarant, plein de suspense et de jolis messages sur le temps qui file et le danger à trop s'attacher au passé, est servi par des héros attachants et une ligne graphique éblouissante. Télérama, Cécile Murie. Le démarrage s'avère un peu mou, car ce Buzz-ci est tout de même moins drôle que sa version de Chambre d'enfant. Puis la fantaisie, la tendresse et les thèmes favoris du grand studio américain, le passage du temps, la difficulté de grandir prennent leur envol. Jacques Mandelbaum, Le Monde, il reste donc un film à voir, lisse, politiquement correct, pas franchement drôle, plutôt aventureux dans son usage des paradoxes temporels. Marius Chapuis dans Libération, l'absence de fantaisie et d'ambition du film, une fois fixée dans son récit, est désarmante. Visuellement, le spectacle n'est certes jamais désagréable, tant le savoir-faire de Pixar est solide, mais la banalité de Buzz l'éclair est d'autant plus criante qu'il est censé jouer dans la cour de Toy Story. Paris Match, Fabrice Leclerc, de belles idées, mais voilà du divertissement impersonnel qui ratisse large, trop pour vraiment convaincre. Le film est proposé au Pathé, au Méga, au Colisée, et je ne l'ai pas tellement aimé, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle un spin-off, un dérivé de Toy Story. Le film évoque donc la véritable histoire de Buzz l'éclair, le ranger de l'espace, héros et jouet des épisodes de Toy Story. Mais il s'agit davantage d'un vrai film de science-fiction pur et dur que d'un divertissement pour enfants, même si on reste sous la forme d'un dessin animé. L'esprit tendre et drôle de la saga Toy Story n'est pas là du tout. À la place, on assiste à un film de vrai héros, au sens sérieux du terme. Et d'ailleurs, les formes d'animation et surtout d'esthétique sont très différentes de Toy Story. Voilà. Donc heureusement, il y a quand même quelques personnages secondaires amusants et un chat robot, hein, notamment, pour apporter une touche d'humour bienvenue à l'ensemble, parce que sinon, l'histoire n'est guère attrayante pour un vieux comme moi, tant elle convoque plein de situations inhérentes au genre de la science-fiction, comme les paradoxes spatio-temporels, et je ne suis pas certain que les enfants vont beaucoup saisir ces histoires de paradoxes spatio-temporels. Et puis, on multiplie les emprunts à beaucoup d'œuvres du genre, ça va de la saga Star Wars, à Gravity, en passant par les mangas japonais style Goldorak, mais aussi Transformers, et j'en passe. Voilà, beaucoup de références, beaucoup d'emprunts. Alors certes, il n'y a pas de réel reproche à faire à l'animation, c'est toujours virtuose et fluide, comme toujours chez Pixar, même s'il n'y a plus vraiment de surprise et qu'on a quand même une vraie impression de déjà vu. Ce qui pêche, pour mon goût, c'est l'histoire. Une histoire bien trop premier degré de ce Buzz l'éclair, une quête pour sauver une mission ayant échoué sur une planète inconnue et hostile, où il va devoir faire face à l'hostilité de la nature et puis ensuite d'un terrible robot et de son armée impitoyable, aidé malgré tout par ce petit groupe de recrues, plutôt maladroite, mais pleine de bonne volonté. Moi, je dois dire, j'ai pas vraiment apprécié le film, j'ai même trouvé ça très, 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 très long. Ça multiplie les cliffhangers, ça devient lassant à force, mais je suis pas du tout la cible pour ce genre de production. Je suis donc plutôt mal placé pour juger un film définitivement de ce style. C'est un film plutôt pour les ados, hein, d'ailleurs. Plus d'ailleurs pour les ados que pour les enfants. Voilà. Donc, voilà. Buzz l'éclair, Méga CGR, Pathé Quinconce et Colisée. Jungle Rouge, ça c'est uniquement aux cinéastes. Jungle Rouge, c'est un film d'animation là aussi, mais c'est pour les grandes personnes. Une séance par jour pour ce film d'une heure 32 de Juan José Lozano et Zoltán Horváth. Mars 2008, dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste du monde vit ses derniers instants. Raoul Reyes, numéro 2 des FARC, est tué dans un bombardement par l'armée colombienne de la CIA. Il laisse derrière lui un document inouï, 10 ans de correspondance où se croisent tous les acteurs du conflit, témoignage d'une lutte acharnée pour la révolution. Alors, la rédaction du Parisien parle d'un mélange audacieux de documentaire, de fiction et d'animation. François Forestier dans l'Obs, le film navigue habilement entre deux options pour faire du commandante une sorte de colonel Kurtz. Alors, colonel Kurtz, c'est celui de Apocalypse Now, hein, rôle joué par Brando. Une sorte de colonel Kurtz radicalisé, personnage pittoresque. C'est là que le bas blesse. Reyes, héros romanesque, il fascine les réalisateurs, mais on n'est pas forcé de partager leur point de vue. Baptiste Thion, le journal du dimanche, le parti pris peut dérouter sur le plan esthétique, mais il sert un récit passionnant qui immerge le spectateur dans la jungle et l'intimité de cet homme jusqu'au boutiste, sorte de colonel Kurtz colombien. Alors, encore la référence. Ludovic Béot les a occupés autant sur le fond que la forme. Juan José Lozano et Zoltán Horváth livrent une proposition inédite qui vaut le coup d'œil. Qui est richesse d'en première. Le choix de l'animation se justifie pour compenser l'absence de toute archive filmée, mais le parti pris de faire jouer les acteurs sur fond vert avant de recréer la nature en images de synthèse donne au film un aspect étrange, plus déstabilisant que fascinant. Pas vu Jungle Rouge, j'ai pas eu envie d'ailleurs de le voir. Ce film proposé par les cinéastes, tout comme le dernier de l'aventure de cette semaine, Ventura, qui n'a rien à voir avec un biopic sur Lino Ventura, pas du tout. C'est un film qui était sorti en sortie nationale la semaine dernière de Pedro Costa. Alors, Ventura, manœuvre retraité capverdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se remémore la manière dont lui et ses amis du quartier Fontainas ont traversé la révolution des œillets dans la peur de la répression. Dans son errance, Ventura rencontre Vitalina qui lui raconte sa propre histoire d'exil. Attention, le film dure 1h45, il n'a droit qu'à une seule séance par jour au cinéaste. Clarisse Fabre dans Le Monde, mêlant passé et présent, le film met en scène un manœuvre retraité, le corps usé, hanté par les fantômes des amis et des amours perdus. Le récit quasi-mythologique fait circuler le personnage dans son pyjama rayé, depuis les ténèbres des souterrains humides jusqu'au couloir anonyme d'un hôpital, comme un passage entre la mort et la vie. Chef-d'œuvre. Ah, bon, d'accord. La revue positive Nicolas Bosch, chez Pedro Costa, la composante sociale est toujours le support d'un geste esthétique, visuel ou sonore. Les premiers plans révélant la descente de Ventura vers l'Hadès imprimeront longtemps l'imaginaire des spectateurs. Libération, Sandra Onana, Ventura est du genre à ouvrir de nouveaux états de conscience. On peut passer tout le film à se demander de quoi ces états sont faits, d'où ils viennent. Ce sont comme des rêves que l'on fait quand on ne dort pas. Une nuit de la psyché cernée par un silence rampant. Bon, ben pas eu du tout envie d'aller voir Ventura. Le film proposé au cinéaste avec une séance par jour. Allez, hop, dernier titre cette semaine d'Enclap. C'est toujours extrait du film Elvis. C'est un titre The King and I. C'est Eminem, et oui, Eminem, et CeeLo Green sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Now you're the one I lose. When it's all around, I follow the blind eye.
Bon, on n'est pas forcé d'apprécier Eminem et Silo dans ce morceau qu'on entend pourtant dans le film Elvis, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça.
En partie, du moins.
Oui, voilà. Alors, la semaine prochaine, qu'a-t-on sur les écrans Manceau ? Eh bien, la semaine prochaine, il n'y aura pas Clap. Clap prendra des vacances la semaine prochaine, mais il y a déjà des avant-premières. Déjà, si vous écoutez en direct, eh bien, ce soir au Méga à 20h et à 20h30 au Colisée, il y a l'avant-première d'Irréductible de Jérôme Commander. Je l'ai vu, c'était une bonne comédie française, vraiment. Et puis, dimanche, eh bien, il y aura Les Mignons 2. Les Mignons 2 qui sortent dans 15 jours. Et donc là, il y a les séances au Colisée, au Méga et au Pâté. Je ne donne pas les horaires, mais c'est des gens 11h, 14h souvent, ou 13h45, 18h. Bon, voilà. Les films à l'affiche la semaine prochaine, donc Irréductible de Jérôme Commander, Entre la vie et la mort de Giordano Gederdini, avec Olivier Gourmet et Marine Vacte. Arthur Malédiction, ça a l'air d'être un teen movie un peu d'horreur, voilà. Hein. La Traversée, une comédie française avec Alban Ivanov. Et puis, il y aura Decision to Live de Park Chan-wook,
coréen,
qui était présenté à Cannes, je crois bien, cette année, qui a même obtenu le prix de la mise en scène. Et ça dure 2h20.
Ça sera quand même au cinéaste, oui.
Voilà. Il y aura certainement d'autres films, hein, mais au moins cela, j'en suis sûr. Cette semaine, on ne peut que vous recommander Elvis.
Oui, bien que j'ai aimé l'autre aussi, parce que c'est des chansons, c'est de la musique, j'aime beaucoup. Les goûts et les couleurs. Si j'ai un choix à faire, oui, je choisis Elvis quand même.
Et puis il y a El Buen Patron, qui est pas mal non plus.
Oui, c'est vrai.
Bon, et ben, sur ces bonnes nouvelles, on vous souhaite une excellente semaine cinématographique. On se retrouve dans 2 semaines, c'est le moment de la fête du cinéma à ce moment-là.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc dans 2 semaines.
Au revoir.